La ligne que vous allez suivre est une rediffusion.
Le débat africain. Alain Foucault.
On les entend partout. Ils sont présents dans toutes les cérémonies, toutes les fêtes, toutes les célébrations. Généreux comme ils l'ont toujours été, les bars et restaurants subsahariens avec leurs énormes sonos nous abreuvent de leurs œuvres à longueur de journée. Je n'oublie pas les radios où ils tournent presque en boucle. Et pourtant, contrairement à leurs confrères européens ou américains, hormis quelques-uns qui mènent leur carrière hors du continent, la plupart d'entre eux tirent le diable par la queue. Ces derniers temps d'ailleurs, on a assisté à des scènes tragiques où l'on faisait appel à la générosité de tous pour soigner ou pour sauver certains d'entre eux. Des circonstances qui nous amènent à nous interroger sur cette profession qui séduit, mais qui visiblement ne nourrit pas toujours son homme au sud du Sahara. Comment sortir les musiciens et africains du ghetto? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la musique et aux musiciens africains. Avec plusieurs grands noms, plusieurs musiciens sur ce plateau et un confrère producteur en d'autres temps. D'abord Jacob Devarieux, patron du groupe Kassav, que l'on ne présente plus tant il a fait danser les foules, fait zouker depuis une trentaine d'années en Afrique, aux Antilles, dans l'Hexagone, bref dans le monde. Jacob dont la musique, c'est le médicament. Bonjour Jacob Devarieux, qui est encore en ligne, qui est dans la circulation et qui a du mal à arriver. On espère qu'il sera là dans un court instant. Bonjour Jacob.
Bonjour.
Et merci d'arriver vite, hein. Je sais pas comment ça roule sur le périph, mais on t'espère dans quelques instants, hein. Second invité qui fait lui aussi danser dans le monde depuis 20 ans maintenant, un gaou qui a percé. Asalvo du groupe Magic System. Bonjour Asalvo.
Bonjour.
Ça fait longtemps quand même. Je me souviens de nous à Lomé au Togo où tu étais tout petit, tout maigre.
Ouais. Ça c'est un beau souvenir ça.
Le gaou a percé. Notre troisième invité est un crooner camerounais qui a marqué plusieurs générations dans son pays. Mais il est également un ardent défenseur des droits des musiciens et chanteurs. Il a dirigé la société des droits d'auteur dans son pays pendant quelques temps. Sam Bendé, l'auteur de Rosita, de Bébé, nous fait l'honneur d'être dans notre studio parisien aujourd'hui. Bonjour Sam Bendé.
Bonjour Alain.
Ça te change un peu du froid de Bruxelles, n'est-ce pas, d'être là?
Ah, si tu le dis, je te crois.
Également dans ce studio où il est un peu chez lui, l'inénarrable, l'inoxydable, l'incollable Claudie Sciard de RFI, le patron, l'animateur de Couleurs Tropicales, mais surtout le producteur de musique qui a dirigé plusieurs labels en d'autres temps. Bonjour Claudie.
Bonjour, et artiste aussi, puisque 5 albums, je suis aussi sociétaire
bon, laisse que je te donne la parole, ça va aller.
Voilà.
Ça va, mais tu vas attendre que je te donne la parole,
effectivement,
s'il te plaît. Voilà, hein. Aujourd'hui, c'est moi qui... Alors, j'ai envie de dire, j'ai écouté ces derniers temps un peu dans plusieurs pays, des musiciens se plaindre, des musiciens qui étaient malades, on faisait appel à la générosité d'un certain nombre d'entre nous pour les aider à se soigner. Comment expliquer que tant d'années après, on en soit encore là? Qu'est-ce qui fait que ces musiciens aient du mal à vivre de leur art? Asalvo, toi qui es souvent sur le continent, comment tu expliques ça?
Ben, tout s'explique par l'organisation des bases. Il y a les bases fondamentales aussi qui ne sont pas forcément respectées en Afrique pour les structures qui doivent gérer les collectes des droits des artistes. Mmh. Et un artiste vivant de ses droits d'auteur, c'est-à-dire ses droits de reproduction mécanique et droits d'exécution publique, s'il n'a pas ces droits-là, je crois qu'il ne peut pas vivre. C'est vrai, les concerts, c'est bon, mais les plus gros revenus d'un artiste viennent de ses droits d'auteur. Mmh. Or, en Afrique, on a, jusqu'à preuve du contraire, aucune maison de droits d'auteur qui a pu être bien conséquente à aider les artistes.
Sam Bendé, ça te parle, ça, non?
Oui, ça me parle, d'autant plus que ça vient de quelqu'un comme Asalvo qui génère beaucoup de droits, un peu trop d'ailleurs. Oui, parce que mais malheureusement,
ça, hein.
malheureusement dans son propre. Non, il génère, il est parmi, Asalvo. Moi, je tiens les chiffres de Jean-Noël Tron, qui est directeur de la SACEM, qui m'a dit qu'Asalvo est parmi les top 10 en France. En France.
Mais tu as vraiment percé, hein,
maintenant. Maintenant, quand j'ai dit ceci, maintenant, est-ce que Asalvo, qui est l'enfant de l'Afrique, est-ce que ses droits africains lui reviennent? Non. Normalement, Asalvo aurait dû avoir le triple de ce qu'il gagne de ce côté-ci. Et il a raison.
Ah.
Mais au-delà, au demeurant, il y a aussi le politique. Parce que les cadres juridiques africains, c'est là où il y a un échec. C'est-à-dire que les cadres juridiques africains aujourd'hui ne permettent pas les politiques culturelle qui nous amène vers les industries culturelles. On a encore tendance à penser que le musicien, c'est un joueur.
Il est là pour amuser les gens. Pendant qu'on mange,
lorsque les hommes politiques, lorsque les hommes politiques ont des échéances, alors on appelle le zinzin pour venir jouer le griot du village. Mais c'est fini, ça, cette époque. Les Arsalfo ont révolutionné.
C'est pas fini, la preuve. Donc, c'est, ils sont toujours dans cette situation.
Mais c'est pour ça qu'il faudrait que nous nous organisions donc en termes d'organisation, en fait, en termes d'organisation, il faut des syndicats forts. Il faut mettre des pressions sur les politiques pour qu'il y ait une véritable, je dis bien une véritable politique culturelle. Et que les ministères aujourd'hui changent de dénomination. Parce qu'on appelle encore ministère des arts et de la culture, ministère de la culture tout court. Non. Il faudrait peut-être qu'on aille vers les ministères des arts et des industries culturelles. Mmh. Mais la musique, c'est une industrie, ça génère des richesses.
C'est ça.
Ça génère beaucoup d'argent, c'est vrai. 9,5 milliards d'euros en droits d'auteur dans le monde cette année. Claudie.
La sémantique est une chose, la réalité du terrain et les réalités politiques, sociales, économiques des pays, c'est tout autre chose. On est ici à RFI et moi je me flatte chaque jour de diffuser les œuvres des artistes et d'en payer les droits. On est dans un média qui paye les droits d'auteur pour les artistes. Et donc, comme Sam vient de le dire très justement, Asalfo, qui est un sociétaire important de la SACEM, mais qui est également affilié à d'autres sociétés de droits d'auteur, au Burida, et donc devrait toucher beaucoup plus. Combien aujourd'hui de médias en Afrique paye les droits d'auteur, mais aux auteurs, compositeurs, interprètes et arrangeurs, c'est-à-dire pas en versant des forfaits parfois, ou en s'arrangeant avec l'État, mais en versant aux ayants droit. Combien sont-ils ?
Personne.
Et donc là, on voit bien qu'il y a une responsabilité qui est à la fois individuelle, et effectivement, comme l'ont dit Asalfo et Sam, collective à travers des politiques culturelles précises. Mais d'un autre côté, un artiste, c'est une individualité. Et donc, il a son univers à lui, et son univers, s'il peut rencontrer un public, il rencontre le public. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, moi, j'ai un constat, et ce constat-là, je vais le faire à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Voilà un pays qui, à la fin des années 80, début jusqu'au milieu des années 90, eh bien, était un pays phare, un pays moteur, une sorte de pays contrôle de l'industrie musicale internationale en Afrique francophone en particulier. Je m'explique. Il y avait des maisons de disques. Mais c'est très important. Il y avait des maisons de disques qui produisaient des artistes locaux ou des artistes de la sous-région. Et pour que les majeures compagnies distribuent les productions, leur production du Michael Jackson ou du Céline Dion, elle signait avec ces maisons de disques-là. Ouais. Aujourd'hui, ces maisons de disques-là ont disparu.
Ouais. Mais ça aussi, c'est l'avènement du numérique. La disparition des maisons de disques. Parce qu'aujourd'hui, la production phonographique ne marche plus en Afrique. Même pas seulement en Afrique, même ici en Europe,
le constat est clair. Je souhaitais que l'on parle du numérique dans la deuxième partie de ce magazine, mais je voulais qu'on dresse un constat, qu'on fasse un état des lieux. Là, on dit, on ne paye pas les droits d'auteur. Il n'y a pas que la question des droits d'auteur qui se pose réellement. Ce n'est pas ce qui explique que les gens soient dans cette situation.
Non, il y a la professionnalisation aussi du milieu, la prise de conscience professionnelle de nos artistes, parce que même si on met des maisons de droits d'auteur bien organisées en Afrique, que les artistes eux-mêmes ne sont pas organisés, ça risque d'être compliqué. Je crois que c'est à la racine qu'il faut soigner les choses. C'est pas seulement la production artistique. Même les maisons, aujourd'hui, on a des palais de la culture, des palais des arts et tout. Et ces maisons,
il faut parler pour le cas de la Côte d'Ivoire.
Le cas de la Côte d'Ivoire.
Parce que ailleurs, j'ai pas le sentiment qu'il y ait un palais de la culture au Cameroun, Saint-Bendé.
C'est une manière
de
dire.
Même pas une salle de
mais toutes ces maisons-là, pourquoi elles n'exigent pas, par exemple, des licences aux promoteurs de spectacles avant même de louer la salle? C'est-à-dire pour louer une salle. En France, ici, je sais que on ne peut pas organiser un spectacle si on n'a pas une licence de producteur de spectacle. Et la licence vous contraint à répondre à certaines obligations, telles que les déclarations des artistes déjà, des titres qui sont diffusés ou qui sont exécutés pendant les concerts. Mais tout ça, c'est pas organisé. Ne parlez pas seulement du côté artistique, mais il faut prendre l'ensemble, c'est-à-dire les industries culturelles et créatives en Afrique ne sont pas organisées.
Là, vous mettez le doigt sur la clé dont parlait Sam Bendé à l'instant, c'est-à-dire tout ça, c'est une industrie.
Est-ce que
le vrai débat, ce n'est pas la volonté politique, tout simplement? S'il y a une volonté politique, les choses vont mieux. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école en Afrique, la musique, déjà, était une matière avec un coefficient. Aujourd'hui,
aller à toucher le vrai problème, c'est la volonté politique.
Oui et non.
Je peux pas comprendre que les politiciens, c'est-à-dire les dirigeants et tout, pour mener de bonnes campagnes, pour s'adresser aux gens, savent que la musique a une place importante.
Il y a toujours un musicien dans le sac voilà. d'un politique.
Je me rappelle à l'époque, quand le colonel Muammar Kadhafi a voulu rassembler l'Afrique, il a réuni toutes les grosses Absolument. Stars africaines à Tripoli pour les mettre en mission pour aller parler. Mais pourquoi, pour prendre des décisions, pour que cette corporation-là occupe la place qu'elle mérite, ces décisions-là n'émanent pas. Demandez dans les gouvernements africains le poste du ministère de la Culture. Dans l'ordre protocolaire, généralement, on vient en dernière position.
Avec le sport.
Même le budget vient en dernière position.
C'est ça qui est la question, parce qu'en réalité, quand on regarde bien, comme le dit Assalfo, lorsque l'on regarde dans le gouvernement, le dernier, généralement, c'est la culture et le sport.
Oui, avant que Claudie ne vienne nous contredire, parce que je vois, il y a un pistolet, à gauche. Avant qu'il nous contredise, Assalfo et moi, j'insiste là beaucoup. Dans mon propos liminaire, je vous ai bien dit qu'il n'y a pas de volonté de mettre en place des politiques culturelles. Donc, les pouvoirs publics, en fait, ont un échec retentissant. Même si quelque part, Claudie va rebondir en disant.
Non, mais bon, ça regarde Claudie.
Bon, alors, je m'explique. Assalfo a pris le cas déjà des budgets. Mais moi, je vais plus loin. Lorsqu'on parle des droits, il y a des droits qui viennent aussi s'ajouter aux droits sociaux. Oui. Parce que tout à l'heure, Alain disait, oui, pourquoi l'artiste finit par mourir? Pourquoi il meurt? Parce que bon. Alors, entendons-nous bien. Assalfo dit, il faut des autorisations. Il y a un cadre, par exemple, au Cameroun, législatif et réglementaire, qui est clair. Mm-hmm. Tu ne peux pas faire un concert au Cameroun si tu n'es pas agréé, si tu n'as pas de licence. Mais non, n'importe qui se lève et appelle des artistes. Voilà. Et puis, il y a des ordres.
Quelquefois, avec le partenariat du ministère, de tutelle.
Il n'y a pas de société.
Il n'y a pas de société. Il n'y a pas une société de production déclarée.
Claudie, c'est en production.
Donc,
et puis,
tu as produit.
Pourquoi moi?
Lorsque tu as produit l'artiste, tu n'as pas versé.
Un rond. Manque à gagner pour l'État.
Manque à gagner pour l'État d'abord. Mm-hmm. Tu n'as pas respecté tes obligations fiscales et sociales. Mm-hmm. Parce que l'artiste qui vient signer le contrat avec toi est un travailleur. Mm-hmm. Donc, beaucoup de législations africaines n'ont pas encore intégré le fait que l'artiste interprète est un travailleur. Mm-hmm. Donc, du coup, s'il est protégé socialement, à la fin de sa vie, sa retraite complémentaire est là. Ouais. Il peut soigner sa famille. Ouais. Donc, on n'aura pas des artistes qui diront, oh, il est en train de mourir, voilà, à porter les paniers, tout ça. Je prends encore le cas de celui qui est devant nous, Assalfo. Mm-hmm. Partout où il tourne dans le monde, tu ne peux pas faire chanter Assalfo tant qu'on n'a pas vérifié que tu as versé des droits sociaux d'Assalfo.
C'est pas possible.
Et tu dois les déclarer. C'est pas possible. Mm-hmm. Donc, ça aussi,
donc,
c'est un problème.
Politique, Claudie.
Volonté politique.
Alors, donc, volonté politique, Claudie.
Je range mon pistolet.
Oui, voilà.
Non, mais parce que nous sommes d'accord sur le fond, sauf que, et je suis d'accord avec Sam, lorsque tu dis que tu es contre les politiques culturelles, parce que la politique culturelle devient un carcan, et on peut tomber très vite dans le côté soviétique de la chose. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ce type d'encadrement-là. Je disais tout à l'heure, un artiste est une individualité. Pour moi, il y a trois choses essentielles que l'État doit garantir, que justement le politique doit garantir. C'est la possibilité de recouvrer les droits d'auteur lorsqu'il y a diffusion, utilisation des œuvres discographiques, artistiques, des auteurs-compositeurs et interprètes, auteurs-compositeurs et arrangeurs, puisque l'interprète, lui, ne touche pas de droits d'auteur.
Mais alors qu'il doit avoir sa maison.
Alors, oui.
Il a des droits voisins.
Oui, il a des droits voisins.
Donc, de
évidemment, Johnny Hallyday, on sait quelque chose. Des subventions. Parce que je crois, lorsque Sam dit que l'on ne peut pas, n'oublions pas quand même quel est l'état économique de nos pays. Donc, lorsqu'il y a des promoteurs qui sont capables de produire un spectacle, c'est aussi la culture qui est partagée. Donc, on peut jeter l'opprobre sur ceux qui font mal leur travail dans un second temps, mais ceux qui finalement n'ont pas de licence, mais ont plutôt bien fait leur boulot, ont payé tous ceux qui ont travaillé autour.
Mais c'est
de
ça qu'il est question. Oui, c'est-à-dire qu'il faut un cadre juridique sur lequel l'État veille.
Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, ce n'est pas de tout interdire, mais c'est peut-être de dire, ok, vous avez fait vos preuves, de tout réguler. Oui, c'est comment est-ce que l'on régule. Et puis la professionnalisation. Mais pas pour tout le monde. À Salfo, lorsque je regarde les quatre magiciens, ils ne sont pas nés professionnels, mais ils le sont devenus. Il y a la capacité d'un artiste à avoir l'intelligence de son métier. Et à Salfo est probablement un des artistes les plus intelligents que je connaisse, parce qu'il a tout compris très vite.
Combien tu as payé à Claudie pour ça?
Non, mais je l'ai toujours dit.
Claudie, c'est mon gars.
Non.
Il m'a vu dans l'embryon, il m'a pris là,
mais
comme ça. Là.
Voilà quelqu'un qui, en arrivant en France, il a très vite compris comment fonctionnait l'industrie du disque.
Là, ça.
Et il s'en est servi, non pas juste à des fins d'un groupe personnel, mais il s'en est servi pour tout ce qu'il fait, toutes les œuvres sociales qui sont attenantes à l'œuvre de Magic System. Donc, trois choses. Les droits d'auteur, comment on respecte les droits? Un ministère de la Culture qui n'est pas là pour enfermer, encarter, pour être un carcan, mais pour permettre aussi aux subventions et la professionnalisation.
Moi, je veux rebondir sur ce que Claudie vient de dire. Claudie a parlé du recouvrement dans les trois points qu'il a dit tout à l'heure. Le recouvrement, une maison de droits d'auteur peut bien faire un recouvrement, mais s'il n'y a pas un mécanisme de répartition, parce que les droits d'auteur, ce n'est pas une tontine. Ce n'est pas de ramasser tout et mettre là, et puis dire on va donner temps à temps. Voilà. Mais s'il n'y a pas un mécanisme qui est mis en place pour que chacun touche effectivement ses droits, mais il n'y a pas à regarder la floraison du coupé décalé. C'est pas un phénomène seulement ivoirien. Mmh. Ça a pris tout le continent africain. Mais je mets au défi un chanteur de coupé décalé qui va venir dire, j'ai une fois touché 60 000 euros en droit d'auteur. Mmh. C'est pas possible. Mmh. Sam Bende a parlé de la politique sociale. La politique sociale, moi je prends l'exemple, nous notre exemple. À la SACEM, aujourd'hui, quand tu es artiste, quand tu es sociétaire, tu as tout de suite une mutuelle qui est à la SACEM, qu'on appelle la SMACEM, la Société des Mutualistes, Auteurs, Compositeurs, Éditeurs de Musique. Mmh. Et tu es inscrit là. On te demande pas de venir cotiser. On te prend directement ta cotisation sur tes droits d'auteur. Aujourd'hui, quand
là, on revient à la volonté politique et au cadre juridique.
Aujourd'hui, quand un artiste est malade, même nos femmes, nos enfants, nos femmes vont dans des accouchements, on leur donne des salles, tu arrives, tu es content comme si tu étais un ministre, quoi. Mmh. Parce que la SACEM a pris toutes les dispositions pour que tout le travail que tu as fait puisse être bénéfique aussi à ta famille. Ta santé est prise en compte, tes soins, tout est pris en compte. En Afrique, il n'y a pas ça. Je veux remercier. Je profite encore pour remercier. En Côte d'Ivoire, on a une politique. Et ça, c'est le seul pays en Afrique. Ça, il faut remercier le président de la République, Alassane Ouattara. C'est parce que c'est le seul pays en Afrique où le gouvernement a pensé à rassembler tous ces artistes, j'aime pas employer le mot vieux, mais tous ces anciens artistes qui n'arrivent plus à vivre décemment de leurs droits, de les rassembler,
je le confirme,
et de pouvoir leur donner
un salaire mensuel. Ils ont entre 150 000 et 300 000 francs, c'est pas
Voilà. Donc ils ont près de 500 euros par mois.
Je confirme.
Et ça, c'était la volonté du président de la République de pouvoir venir en aide. Mais mettons une politique qui va aider tout le monde. Parce que le président Alassane Ouattara, il ne sera pas là éternellement. Ça, c'est une politique personnelle qui est venue de lui. Et demain, s'il n'est pas là, ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent?
Voilà, c'est une initiative, je confirme. Mais au demeurant, je vais aller encore un peu plus loin que ce que Assalfo et ce que Claudie venaient de dire. Claudie a mis le doigt sur quelque chose dont il a appelé les subventions. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir des institutions sans des subventions. Mais je voudrais rappeler et dire à Claudie, lui donner des informations, que les ministères des Arts et de la Culture, c'est toujours le dernier de la classe. Mon cher Claudie, je prends le cas de mon pays, ne verse pas des larmes.
Le Cameroun.
Le ministère des Arts et de la Culture a un budget de 3 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça?
C'est-à-dire 2 millions d'euros.
Même pas un film, Claudie.
Bien sûr.
Donc, à partir de cet instant-là, tu as beau être, Claudie, tu amènes ta société, on veut... J'ai dit ça sur Internet une fois, j'ai commis un travail sur cela, et ma diffusion était de dire, encourageons ceux qui sont réglementaires au Cameroun, en leur donnant des subventions. Le chef de l'État a mis en place un compte d'affectation culturelle, dont le budget, je dis bien le budget, ce sont les prévisions, hein, je ne dis pas l'argent est là. On a budgété ce compte de 1 milliard de francs CFA par an, pour toute une industrie, pour tout le monde.
Et donc 1 milliard de francs CFA,
Claudie.
Mais 1 milliard de francs CFA, c'est-à-dire même les droits d'auteur de Stromae sont plus que le budget du ministère de la Culture.
Claudie, tu vois que c'est 1 milliard, ce n'est que, je te parle de budget, donc c'est une prévision. À ça, il faut attention, on n'attend même pas parfois 1 milliard par an. C'est-à-dire que quand le ministère des Finances veut bien donner à un autre ministre peut-être 300 millions ou 400 millions, on dit, c'est tout ce que j'ai cette année. Et là, donc, on n'atteint même pas parfois le milliard.
Et les artistes n'arrêtent pas de se disputer pour ça, parce qu'en réalité, pas grand-chose.
Et donc, du coup, il faudrait que nous, on puisse faire que les artistes, les auteurs, les promoteurs culturels, qu'on se batte pour qu'on augmente l'enveloppe les productions.
On va parler, là, on a fait un état des lieux. Dans la seconde partie, je souhaiterais que l'on parle des solutions et que l'on parle aussi du nouveau modèle économique qui apparaît avec le numérique. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et à très vite.
L'interview que vous allez suivre est une rediffusion.
Le débat africain. Alain Foucault.
Sur les 9,5 milliards de dollars collectés en droits d'auteur au monde, l'Afrique n'a eu que 1%, c'est-à-dire 67 millions d'euros. Comment expliquer ce paradoxe lorsque l'on sait que les Africains consomment de plus en plus leur musique ? Comment sortir le musicien africain du ghetto ? Comment en finir avec cette clochardisation des chanteurs subsahariens à l'heure du numérique ? Au-delà de la très mauvaise collecte des droits d'auteur, quel modèle économique adopter à l'heure du numérique ? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain, consacré aujourd'hui à ceux qu'on écoute presque tous les jours, mais qui, majoritairement, ont du mal à vivre de leur art. Avec plusieurs grands noms, plusieurs musiciens africains sur ce plateau et un confrère producteur. D'abord, Jacob Devarieux, qui nous a rejoint, patron du groupe de renom Kassav, que l'on ne présente plus, tant il a fait danser les foules, fait zouker depuis une trentaine d'années en Afrique, aux Antilles, dans l'Hexagone, bref, dans le monde. Jacob, dont la musique, c'est le médicament, et qui a réussi à nous retrouver dans ce studio. Il paraît que ça roule mal dans Paris, mais ça, c'est lui qui le dit. Merci, Jacob, d'être enfin là.
Tu vois, déjà, il me le doute. Tout ce que je vais dire, ça va être, ouais, on sait pas, on n'est pas sûr.
Second invité qui lui aussi fait danser dans le monde depuis 20 ans maintenant, un gaou qui a percé à Salfo du groupe Magic System. Le groupe Magic System qui fête ses 20 ans cette année. 20 ans déjà à Salfo.
Oui, 20 ans. Disons, c'est le premier gaou qui a 20 ans. Magic System a 22 ans. À 22 ans, ouais. Mais c'est toujours bien de parler de ça. Ben, 20 ans, c'est 50% des Kassav, quoi.
Mais 150% des droits d'auteur de Kassav. Ah, non.
Hein? Non, non. Là, il vient de balancer.
Non.
Troisième invité de cette émission, un crooner camerounais qui a marqué plusieurs générations dans son pays, mais il est également un ardent défenseur des droits des musiciens et chanteurs. Il a dirigé la société des droits d'auteur dans son pays pendant quelques temps. Sam Bendé, l'auteur de Rosita, de Bébé, nous fait l'honneur d'être dans ce studio également. Merci Sam Bendé d'être là. Également dans ce studio où il est un peu chez lui, l'inénarrable, l'inoxydable, l'incollable,
l'infalsifiable.
Toujours imité, mais jamais égalé.
Vous pouvez également rajouter les marques.
Voilà pour notre plateau, en tout cas. Dans la première partie de ce magazine, nous avons, Claudie, c'est moi le patron ici aujourd'hui.
Je voudrais juste te dire merci. Non, mais merci. Parce que je suis là, en face, de deux artistes, qui, dans ma vie, sont très importants. Kassav. J'ai réalisé le premier best-of de Kassav en 91.
C'est vrai, ça?
Pour le label Flarenach. C'était 10 ans déjà. C'était le premier best-of du groupe. Et puis, ma rencontre avec Magic System, avec Asalfo, pardon.
Tu avais combien de droits d'auteur?
Je peux dire combien? Le best-of a vendu 250 000 exemplaires.
Oui, c'est bon.
Maintenant, combien la maison de disques Warner a gagné Flarenach?
Un coucou à tous les, à tous les gardes du fisc qui nous écoutent. Un coucou à tous.
Il y a des artistes en Afrique qui aimeraient bien que le fisc leur court après. Qu'ils ne sont pas connus par le fisc.
Ben, le fisc leur court après.
Ah bon?
Oui, parce qu'en fait, le fisc déjà, au lieu de récupérer l'argent des droits d'auteur pour leur remettre, ils ne le font pas. Donc déjà, tu vois, c'est un peu comme s'ils leur courent après. Ils leur prennent 100% de leur revenu.
C'est ça.
Je voulais corriger tes chiffres, Alain. Tu as lancé tout à l'heure un chiffre qui m'a interpellé. Tu as dit que les collectes, c'était 9 milliards de dollars, je crois. Bon,
9,5 milliards, oui.
La CISAC, c'est 9 milliards d'euros. Bon, on peut commencer en dollars. Et tu as dit que l'Afrique, c'est 1%, c'est faux. L'Afrique n'atteint pas 1%.
Vous êtes à combien?
0,75%.
C'est 0,75%. Mais en dollars, c'est 1%.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, tu vois que la Corée du Sud est arrivée, ça fait pas encore 5 ans dans le domaine des droits d'auteur. Ce pays, à lui seul, en perçoit 75 millions d'euros. Donc, la Corée du Sud seule génère beaucoup plus de droits d'auteur que toute l'Afrique.
Alors, on va être plus constructif dans cette seconde partie. Le but, c'est de dire, voici ce qu'on pourrait faire. Alors, comment faire pour que ces artistes puissent enfin vivre de leur art? Puisque Jacob n'était pas là, on va commencer par lui. Lui qui pratique l'Afrique depuis tellement longtemps, qui y va, qui y vient, qui travaille avec des artistes africains, qui les connaît très bien. D'après toi, Jacob, qu'est-ce qui doit être mis en place dans l'immédiat pour commencer à sortir les gens du ghetto?
Wow. Première chose, déjà, je pense qu'il faudrait arriver à convaincre les politiques, mais en parlant de leur langue, quoi, tu vois, en leur disant que, mais vous savez, quand vous récoltez les droits d'auteur, vous prenez une part dessus. Vous n'êtes pas obligé de prendre 100%. Vous pouvez prendre une part. Et du coup, ça fait des revenus. Parce que,
c'est dans leur intérêt aussi. C'est-à-dire, ben, on crée un cercle vertueux. En
voilà. On va essayer, du moins, tu vois. Et donc, de les convaincre de mettre des sociétés d'auteurs qui ne sont pas juste des trucs qui peuvent servir, par exemple, je ne sais pas, pour les buts électoraux ou autres. Enfin, tu vois, notamment les sommes qu'il y a dedans. Enfin, bon, tu vois, faire un truc à peu près, bon, correct, et qui va reverser aux artistes en question pour leur permettre de vivre. Et éventuellement, même, de faire des choses qui pourront aller plus loin. Parce que, tu sais, quand t'es chez toi tout seul, oui, on parle du blues où les mecs, ils meurent de faim et puis ils font des trucs géniaux, mais c'est pas eux qui mangent après, hein, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'était les autres, quand ils arrivaient, ils écoutaient le blues, ils disaient, ah, ça c'est génial, on va le refaire. Et à ce moment-là, c'était eux qui mangeaient.
Ouais, tout à fait.
Tu vois, il y a quelques artistes, genre les Stones ou autres, qui disent, ah ouais, il y avait un gars là, un tel, machin, tu vois, on va l'inviter sur scène, tout ça, mais bon. Voilà.
Il n'en vit pas.
Dans la misère, tu crées pas, en fait, t'as du mal à créer, t'as du mal à faire des choses qui vont aller ailleurs. Donc déjà, il y a la volonté politique, dont j'ai entendu parler tout à l'heure. Ouais.
Tout à fait, la volonté politique dont on a parlé jusque-là, c'est-à-dire sensibiliser les politiques. Mais on a le sentiment qu'il faut peut-être aussi de la formation, non?
Il faut de la formation, mais attends, même avant ça, parce que tu sais, la plupart des grands artistes que tu connais, c'est pas parce qu'ils ont été faire des écoles de machin ou des conservatoires ou autre. Non, je prends l'exemple d'Assalfo, tu vois. Moi, c'est facile, hein, tu vois. Bon, je suis africain d'origine, on va dire. mais par exemple, le gars, il a fait sa musique dans son coin et ça a touché plein de gens parce que ils ont eu la possibilité d'entendre et de savoir que ça existe. Ouais. Tu vois. Bon, là maintenant, il y a Internet. Ouais. Bon, je le vois pour nous, hein. Par exemple, imagine qu'après Paris, l'endroit où on a le plus de gens, enfin de je sais pas comment on appelle ça, les gens qui te suivent sur les
Là, on reconnaît le vieux, hein. Et c'est
pas c'est pas moi qui m'occupe de ça. Donc tu vois, moi je bon, alors que ce soit sur en fait toutes les formes de distribution de musique, là on a le plus de fans après Paris. C'est pas les Antilles, hein. Non. Abidjan.
C'est Abidjan.
Ouais. Voilà. C'est Abidjan. Alors, pour l'instant, ça rapporte pas grand chose. Oui, c'est vrai. Ben, comme les concerts, comme tous les trucs. C'est-à-dire que les gens n'ont pas des moyens extraordinaires, mais par contre, ils ont déjà Internet.
C'est ça.
Et c'est comme ça dans tous les pays. On voit au fur et à mesure.
Mais est-ce que c'est pas ça, la révolution? Ben, est-ce que c'est pas le fait qu'aujourd'hui, on peut sur son ordinateur écouter de la musique, acheter de la musique, qui va peut-être résoudre le problème des artistes africains?
Ça ne va pas résoudre le problème, parce que, Alain, moi, je t'ai dit, il faut prendre les choses comme elles sont. On a un continent dont le taux de bancarisation est très faible. Or, sur tous ces sites de téléchargement, on n'y va pas avec de l'espèce en poche pour les acheter. Il faut avoir une carte bancaire. Et quand il y a un pays ou un continent qui est bancarisé à 8%, je crois pas que ça peut révolutionner quelque chose. Donc,
oui, mais il y a des nouveaux modes de paiement. Hein. Je veux dire, Orange Money.
Je venais par ça. Le mobile money, l'Afrique est numéro un au monde.
Tout à fait.
En termes d'expérimentation du mobile money. Aujourd'hui, le mobile money, c'est ce qui marche le plus. Mais ce sont les compagnies de téléphonie qui font ces mobile money, qui commercialisent la musique. Ça n'a rien à voir avec les sites de téléchargement dont vous voyez. Et ça, c'est des arrangements entre ces maisons-là et d'autres sous-traitants qui le font. Donc, il y a toujours des intermédiaires qui font que, avant que le droit arrive à l'artiste, quand on le prend à 100 francs, avant qu'il arrive à l'artiste, à force de prélever, il n'arrive qu'à 10 francs à l'artiste, disons peut-être 10%.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que lorsqu'on a dit dans cette seconde partie, on va être constructif.
L'État doit, on demande pas de la subvention, peut-être, mais de l'investissement.
C'est pareil.
Comme on investit dans l'agriculture, comme on investit dans les mines, comme on investit.
Qu'on investisse
dans la. Pardon, parce qu'une subvention.
On investit dans quoi concrètement? On investit dans quoi?
Dans les industries culturelles et créatives. Quand je dis un investissement, c'est par exemple permettre la diffusion des œuvres. C'est-à-dire accompagner ceux qui mettent des projets de diffusion en place, comme les festivals, les événements organisés ici et là.
C'est une forme de subvention.
Moi, je remercie, je profite du micro pour remercier le gouvernement ivoirien.
Bon, on va pas recommencer.
Parce que ils m'ont. Je suis commissaire général du FEMUA, qui est un diffuseur en Afrique, qui permet à des artistes de recueillir des droits. Et moi, j'ai mon gouvernement qui m'accompagne avec une subvention pour pouvoir promouvoir cet événement.
Ça m'aide à être jaloux.
Donc ça, non. Mais c'est de dire, il faut dire, quand il ne travaille pas,
il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Non, mais il faut qu'on arrête l'hypocrisie.
Claudie.
Nous sommes sur un continent où, quels que soient les domaines, les politiques publiques sont bancales. Et vous pouvez, vous imaginez, Sam disait tout à l'heure que les parents pauvres, et Assalfo disait la même chose, les parents pauvres des politiques publiques sont toujours les ministères de la culture et des sports. Donc comment vous voulez, lorsque vous avez de telles mentalités chez des gens qui dirigent, comment vous voulez attendre d'eux qu'ils mettent en place des politiques effectives pour pouvoir aider la culture? On va oublier. Le numérique, ça peut être une solution. Mais je voudrais, juste avant cela, rappeler l'exemple de la Jamaïque. La Jamaïque, c'est un pays pauvre comme d'autres pays d'Afrique. Mais la Jamaïque, si elle rayonne aujourd'hui à travers le monde, c'est à travers sa musique.
Le reggae.
Et à travers le sport. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous n'avez aucun pays... aujourd'hui, vous n'avez aucun pays aujourd'hui dit du tiers-monde, quelle expression est tellement laide et débile, mais vous n'avez aucun de ces pays-là dit pauvre, où les gens ne peuvent pas comprendre que lorsqu'un artiste rayonne, lorsque vous rayonnez par votre culture, vous rayonnez forcément, ça touche l'économie et d'autres secteurs de l'économie. Et lorsque vous avez des gens qui sont incapables de penser ça, vous n'allez nulle part. Et donc je crois que le numérique aujourd'hui, il peut sauver ça. Pourquoi ? Parce qu'il peut permettre de franchir, c'est-à-dire que d'éliminer des intermédiaires. Je pense que l'État, avec son incapacité, est un intermédiaire nuisible. Avec son incapacité à mettre en place des structures. Alors, le Burida fonctionne plutôt bien, mais il y a des sociétés qui font...
C'est la société de droits d'auteur en Côte d'Ivoire.
Non, je ne vais pas dire que le Burida fonctionne bien. Le Burida fonctionne.
Le Burida,
à sa manière. Mais relativement aux autres maisons de droits d'auteur, il faut reconnaître qu'il y a du mieux au Burida. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne bien.
Alors, aucune société de droits d'auteur en Afrique francophone, puisque ce sont ces sociétés-là que je connais, ne fonctionne normalement. Et donc, si grâce au numérique, parce que moi je suis désolé, lorsque vous êtes en commercialisation directe, votre argent vous le recevez sur votre compte. Et ça ne passe plus par les droits d'auteur. C'est-à-dire que les droits de la société droits d'auteur qui est incapable, alors ça veut dire que évidemment il y a un manque à gagner. Et c'est évident. C'est pour ça que je disais qu'au début de cette émission que moi je me félicite d'être sur RFI parce que RFI paye les droits d'auteur. Et puis je voudrais juste rappeler aux uns aux autres que les États-Unis, l'hégémonie américaine, elle ne s'est pas faite uniquement par les armes, par l'esclavage et une forme de néocolonialisme sur le reste de la planète, mais par la culture, par le cinéma, par la musique et autres.
Mais RFI paye les droits d'auteur, pas par sa volonté. Pas par la volonté des RFI, c'est parce qu'il y a une mesure qui est mise en place qui oblige RFI à payer.
Parce que c'est l'État.
Ce sont les politiques.
Bien sûr,
allons le dire. Notre aîné l'a dit, d'entrée de jeu, il n'était pas...
Notre aîné, c'est qui ?
Monsieur Jacob Desvarieux.
Bon, moi, je ne sais pas, en tout cas...
Il a dit...
Je ne sais pas qui est aîné,
Il a parlé, sans nous avoir écoutés, il a parlé lui aussi de politique culturelle. On revient à cela. Bon, Claudie dit, le numérique est une chance pour l'Afrique. Oui, mais c'est seulement si ce qu'Asalfo a dit est vrai. C'est-à-dire, de nouveau, encadrer cela par... il faut un cadre juridique.
Voilà, il faut dire à Claudie que c'est
une chance. Il faut un cadre juridique.
Comme il a dit tout à l'heure, le gouvernement.
Heureusement que les politiciens ne sont pas dans l'histoire de commercialisation directe du numérique.
Voilà.
Ils prendraient l'argent, mais heureusement. Prenons.
S'il peut prendre l'argent et que ça peut arranger les artistes.
Mais il peut
souvent.
Si arranger les artistes, ça se fait.
Dans certaines législations, ils prennent même.
Mais ça, on peut
prendre. Prenons le cas de la copie privée.
Voilà.
Et ça, c'est très intéressant pour la subvention. Donc,
la
copie privée revient normalement 25% pour un auteur, 25% pour l'artiste-interprète, 25% pour le producteur,
et 25% pour l'État,
pour l'action culturelle.
Donc,
l'État devrait nous accompagner pour qu'il y ait plus d'entrées pour subventionner les industries culturelles et créatives.
Pourquoi je parlais
mais ces États ne font pas cela.
Oui, mais voici.
Vous m'avez dit non, je vous ai dit les subventions, c'est comment...
Mais pour avoir ces subventions-là, il faut investir.
Tu veux bien faire taire les petits et dire quelque chose?
Non, simplement que je me dis que dans les pays, bon, on va dire en voie de développement ou comme vous voulez, bon, fait les pays d'Afrique, vu ce qu'on sait, à tort ou à raison des divers gouvernements, il n'y a pas un en particulier, il n'y a pas un mieux que l'autre, déjà, en France, on a des difficultés au niveau des droits d'auteur, par exemple, avec les distributeurs de téléphones, je ne sais pas comment on appelle ça. Déjà, en Afrique, c'est en train de monter, c'est en train de se créer. C'est là qu'il faudrait faire pression, de façon à ce que les marchands de téléphone, je sais plus.
Enfin, les opérateurs.
Les opérateurs de téléphone, ils font beaucoup d'argent avec la musique parce qu'ils jouent sur le fait qu'on peut télécharger plus vite avec eux plutôt qu'avec les autres. Oui. Donc ils diffusent plus de musique, oui. Mais ils veulent pas payer.
Mais ils payent. Oui, mais ils sont des intermédiaires à qui ils versent cet argent, mais qui juridiquement n'ont aucune obligation.
Oui, mais ça,
de rendre transparente la comptabilité avec. Non,
je pense que ça va se faire petit à petit, tu vois. Ouais. Mais oui, parce que.
Pas qu'on meurt. Hein.
Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Je me dis peut-être que ce sont nos enfants qui verront ça, nous on verra pas.
Faut-tu toucher mais il y a pas de.
Non, mais c'est vrai. Mais
non, je me mets avec toute la masse. C'est pas parce que tu touches. Non, mais voilà.
Même si nous on touche, tu sais, même si nous on touche, même si bon, ça se passe bien parce que nous on va à l'étranger.
C'est ça.
Mais pour ceux qui arrivent derrière nous. Tu vois, c'est eux qui verront ça. Mais nous, on est obligé de se battre pour eux.
Là, on a continué dans l'état des lieux, on a compris que l'acteur principal, c'est l'État qui doit avoir un peu de volonté politique. Mais vous avez tous des jeunes que vous avez produits, que vous accompagnez, qui sont dans la musique aujourd'hui, qui vous regardent en se disant « Comment je deviens Jacob Desvarieux ? Comment je deviens Asalfo ? Comment je deviens Sam Bendé ?» Comment ils fonctionnent pour pouvoir vivre de cet art-là, avec le talent que vous leur connaissez? Parce que quand vous arrivez sur le continent, vous êtes toujours soufflé quand vous rencontrez ces jeunes-là.
Malheureusement, tout dépend pas de nous. Malheureusement.
Mais oui.
Rien ne dépend de nous. Nous, on a notre volonté de les sortir de là.
Mais que leur dire?
Que leur dire?
Que nous sommes dans un combat permanent.
Tu sais, je pense, sincèrement, que pour réussir dans ces domaines-là, en tout cas, tu vois, il faut à peu près 80% de chance. Si tu as 10% de talent, 10% de travail, tu vas devenir le meilleur du monde.
Ouais.
Mais si tu n'as pas la chance, si tu ne fais pas les bonnes rencontres, etc. Donc, c'est de la magie, quoi. Voilà,
Oui, mais lorsque vous avez dit ça, le bonhomme, il s'est dit, donc, je suis dans le monde de la magie.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que la magie qui peut, tu vois. C'est-à-dire que tu croises le chemin de Claudicia et il a entendu ton truc, il dit, ah, mais tiens, ça, c'est bien ça, je vais le passer à la radio. Voilà. Mais c'est ça, tu vois.
Ça, c'est chaque 20 ans.
Mais on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Tu ne vas pas dire au gars, tiens, il suffit de traverser la frontière, c'est pas vrai.
Non, moi, je dis, c'est de travailler. J'ai dit aux jeunes, travailler. La suite, c'est dans le combat que nous allons mener ensemble, parce que c'est un combat collectif. Nous allons mener ce combat ensemble. En attendant, c'est quoi? Il y a le travail, il y a la détermination. Ouais. Et puis quand on dit là,
mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être aussi responsable de cela? C'est-à-dire lorsque l'on connaît votre popularité, toi tu remplis des salles, des stades. Toi tu remplis des stades. Vous remplissez des lieux énormes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes aussi coupable? C'est-à-dire, vous ne vous êtes jamais dit, nous sommes une force, on va se constituer pour aller en face de ces dirigeants et leur imposer des choses.
On l'a fait.
Mieux vaut tard que jamais.
On l'a fait. Enfin, moi j'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de dirigeants, mais chaque fois que j'ai eu l'occasion, je leur ai dit. Alors, ils disent oui, bien sûr, comme toujours.
Allez, c'est une prise de conscience.
Vous empêchez qu'on joue vos œuvres, par exemple, en disant, bon, ça suffit maintenant, si vous ne bougez pas.
Ouais.
Tu sais quoi?
Tu fais ça, les gens, moi j'ai essayé ça une fois à Abidjan, j'ai dit aux gens, bon, on va essayer de tout bloquer là, les radios étant, si on ne paye pas normalement, il n'y a pas de, voilà. Et tu sais ce qui a été dit derrière? Magic System nous blague. Eux, même s'ils ne touchent pas ici, ils ont l'argent à toucher en France, ils vont nous blaguer pour nous mettre en palabre avec les gens ici, et ils vont partir. Donc, tu vois qu'il y a vraiment un changement de mentalité avant de jouer. Le gars, il te dit non. Toi-même, si on ne te joue pas à la RTI, ça va te faire quoi?
Mais dans le cas du Cameroun, ils ont réussi à opposer les artistes entre eux, parce qu'entre eux, c'est la guerre.
Mais c'est pour ça.
C'est la guerre. Les politiques ont réussi ça.
Je vous le disais encore. Le politique est pernicieux. C'est-à-dire que il a l'art de nous servir ce qu'il appelle des lois, mais en réalité, c'est des intentions.
Alain, et là, je vais vous voyez.
Tiens, c'est nouveau,
Nous faisons le même métier, et effectivement, lorsque nous invitons comme cela des têtes couronnées, on a envie qu'elles apportent des solutions aux problèmes posés.
Rapidement,
Très rapidement, je voudrais juste dire que la solution, en réalité, c'est déjà d'avoir organisé cette émission-là et d'avoir pu dire ce que les uns et les autres ont dit. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une impasse. C'est une impasse. L'impasse, il y a une porte blindée fermée devant nous, et cette porte blindée, elle est tenue par des politiques. Et si les politiques n'ouvrent pas cette porte, rien ne changera. Et puis, je voudrais juste faire petit souvenir, c'est Asalfo qui me l'a rappelé, il y avait Jean-Philippe Martelly dans cette réunion-là. J'avais réuni au début des années 90 plusieurs artistes antillais qui étaient maltraités par les maisons de disques antillaises de France et des Antilles. Et je leur avais dit, mais vos droits, ils sont là. Tout le monde était d'accord, on y va, on va y aller. Au sortir de la réunion, j'ai un coup de fil 2 heures après, c'est un producteur dont je tairai le nom, qui est très copain avec Jacob.
Qui habitait à Sarcelles,
et qui me dit, ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire dans mon business?
défend son boulot.
Exactement. Ben oui. Exactement.
On va terminer là-dessus, hein, ouais. sur cette note. Merci en tout cas d'être venu. Le temps tourne vite. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.